Bien, bonjour à toutes et tous. Alors moi, donc, je suis professeure de psychologie de l'enfant, donc c'est dans une autre orientation que je vais situer mon propos, tout en étant foncièrement d'accord avec ce qui a été évoqué précédemment, à savoir que la France manque cruellement d'articulation entre les savoirs issus de la recherche et les savoirs issus du terrain. Et ça, c'est une lacune majeure que nous avons dans notre pays. Merci de le souligner, parce que je pense que nous avancerions les uns et les autres beaucoup plus vite si c'était le cas. Bien, donc moi je vais situer mon propos en psychologie de l'enfant, mais il est bien évident que quand on parle de la pauvreté, de la précarité, de la fragilité, de l'exclusion, etc., il n'est pas possible de ne pas ouvrir le débat dans le champ du social, de l'économie, voire de la politique. Alors je vais redonner quelques données chiffrées hein, qui nous ont fait honte dans notre pays en 2004, puisque nous avions à l'époque un nombre d'enfants qui était situé à peu près à 1 million d'enfants pauvres. Eh bien nous continuons 10 ans plus tard à afficher des chiffres de la honte, puisque nous en sommes quasiment à 2,7 millions d'enfants pauvres dans notre pays, c'est-à-dire un enfant sur 5, voire dans certaines régions de France, un enfant sur 2. Alors bien évidemment, les données statistiques, on peut toujours les interpréter différemment, mais je crois qu'à un moment donné, que nous soyons entre 2, 3, 2 millions, 5, les données sont là pour nous dire que nous avons beaucoup d'efforts à faire. Alors qu'est-ce qu'il faut dire aussi sur ces enfants? Ce sont des enfants des grandes villes. Ce sont des enfants qui habitent au sein des zones urbaines sensibles, mais ce sont aussi des enfants, et on l'oublie assez souvent, qui habitent dans les zones rurales, qui sont effectivement très touchées avec une répartition géographique très disparate dans notre pays, et en particulier par exemple dans la région PACA. Alors le seuil de pauvreté, tout à l'heure vous avez évoqué une économie de 300 à 400 euros par mois, bien évidemment que c'est un gain énorme pour les familles, puisque le seuil de pauvreté a été défini par l'INSEE en 2009 à 956 euros par mois. D'après l'enquête de l'INSEE, on a la population qui est la plus touchée à l'heure actuelle, ce sont les familles nombreuses, bien évidemment, nous le savons tous, mais de plus en plus des familles monoparentales. Là non plus, on ne peut pas l'oublier, puisque la moitié d'entre elles vivent avec moins de 760 euros par mois à l'heure actuelle. Je vais aller vite, je vais essayer de concentrer mon propos dans les 15-20 minutes imparties. Alors ce que je voudrais d'abord signifier, c'est que mon propos ne sera pas, à voir de façon linéaire. J'essaye de sortir de la pensée simple, comme le dit Edgar Morin. Je n'irai pas jusqu'à évoquer une pensée complexe, mais en tout cas, c'est la façon dont j'essaye de voir les conditions de vie, la façon dont les enfants se développent à l'heure actuelle dans notre pays. Et donc, je vais vous proposer une approche qui est plutôt multidimensionnelle et qui impose de fait une approche multistratégique quand on veut parler de prévention et quand on veut parler de développement satisfaisant de l'enfant. Dire aussi que les éléments que je vais évoquer, qui vont vous paraître assez durs quand on parle de développement des enfants qui vivent dans des situations de pauvreté et précarité, bien évidemment, tous les enfants ne sont pas touchés. Bien évidemment, les enfants qui vivent dans des milieux favorisés peuvent être touchés de la même manière, mais il ne faut pas oublier que les enfants qui vivent dans des milieux favorisés ont quant à eux un soutien social, un soutien familial, un soutien de quartier, etc., etc., ce que n'ont pas en général les familles qui vivent dans des foyers, dans des conditions de pauvreté importantes. Autre chose que je voudrais préciser, les éléments que je vais évoquer, bien évidemment, ne doivent pas être interprétés en termes de symptômes, mais bien être interprétés comme l'expression d'une souffrance psychique qu'il faut essayer de comprendre et d'analyser, non pas de façon isolée, mais bien de l'apprécier par rapport à un environnement culturel, social, économique et psychologique. On ne prend pas un symptôme pour en faire un indice de délinquance, comme ça a été évoqué à un certain moment sous une présidence précédente. Alors je vais évoquer donc brièvement les effets que nous avons trouvé dans la littérature, dans un petit ouvrage qui était paru en, en 2005, qui s'appelait les conditions de vie défavorisées influent-elles sur le développement de l'enfant, du jeune enfant. Et donc je vais cibler mon propos dans la prime enfance. Alors il est exact qu'en France, nous n'avons pas suffisamment, voire pas du tout, de recherche dans cette période cruciale de la petite enfance. Nous avons un certain nombre de recherches dans ces conditions-là, pour ce qui réfère au collège, au lycée, c'est-à-dire à partir de 10-11 ans, très peu dans les périodes de 0-6 ans. Or, nous le savons tous, c'est une période de vulnérabilité. Ça ne veut pas dire que tout se joue à cette période-là, bien évidemment, mais par contre, cela veut dire que si on a des effets dans le développement des enfants entre 0 et 6 ans, cela peut affecter plusieurs secteurs de développement, et ce, à long terme, si nous n'y faisons pas attention, si nous n'y prenons pas garde. Et donc, j'essaierai de montrer que nous sommes quand même bien loin de l'égalité désirée, bien loin d'avoir des enfants qui sont égaux entre eux dans notre pays, même si, effectivement, beaucoup de choses ont été faites, comme ça a été rappelé précédemment. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du développement socio-affectif ? Quand on parle de développement socio-affectif dans les premières années de la vie de l'enfant, on se base notamment sur la théorie de l'attachement, qui est une théorie qui avait été développée par Bowlby, qui est un psychanalyste qui avait travaillé à partir des enfants, à propos des enfants qui étaient... carencé dans l'après-guerre, et il essayait de comprendre qu'est-ce qui se passait. En fait, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que pour qu'un enfant se développe bien, il faut qu'il y ait une relation d'attachement structurante entre l'enfant et ses partenaires éducatifs. C'est moi qui ajoute le terme de partenaire éducatif. Bowlby parlait de mère. J'essaierai d'en dire deux mots aussi, pourquoi je parle de partenaire. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut de la régularité, de la stabilité, des repères, et du côté de l'enfant, donc, de la sécurité, de la confiance. Ça veut dire aussi, et ça on l'oublie très souvent, que quand on parle d'un enfant sécure, hein, c'est ce qui est le jargon actuel que l'on retrouve, y compris dans les médias, ça ne veut pas simplement dire un enfant qui est sécurisé, ça veut dire que c'est un enfant qui est suffisamment sécurisé pour pouvoir explorer, s'autonomiser et se socialiser. Il y a un double versant dans l'attachement, la sécurisation et l'autonomisation. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde la littérature, et je dirais la littérature anglo-saxonne, puisque nous n'avons pas suffisamment de recherches en France. La littérature anglo-saxonne, elle nous dit que nous avons des enfants qui sont désorientés, des enfants qui sont désorganisés par rapport au nombre d'enfants sécurisés que nous retrouvons dans la population générale. Pour ce qui concerne les conduites sociales, et je parle toujours des enfants jeunes, entre 0 et 3 ans, conduite sociale, ça veut dire que ça réfère à la maturité affective, à la flexibilité, à l'adaptation sociale. Ces conduites sociales semblent aussi perturbées, puisque l'on relève des problèmes de comportement dits intériorisés, à type d'anxiété, de dépression, je dis bien de dépression alors que nous sommes chez des très jeunes enfants, d'isolement social ou encore de dépendance affective très importante. On retrouve des comportements dits extériorisés, comme l'irritabilité, l'agressivité, la résistance à l'adulte. On relève aussi des problèmes d'ordre émotionnel, comme une faible estime de soi, et nous savons très bien l'importance de cet item-là par rapport à la question de la scolarisation et du devenir scolaire des enfants. On retrouve des accès de colère et on retrouve des humeurs changeantes. Par ailleurs, et pour compléter le tableau, les relations entre enfants, entre pères, PAIRS, semblent aussi affectées, puisque nous avons la présence de nombreux conflits qui témoigneraient d'une possible inadaptation sociale. Que se passe-t-il au niveau cognitif ? Les recherches menées auprès de jeunes enfants qui utilisent des indicateurs tels que les résolutions de problèmes, par exemple des jeux de construction ou des puzzles, des habiletés verbales, les tests de réussite en lecture et en calcul, je passe sur le QI, puisqu'aux États-Unis, ils ont une façon de l'interpréter qui n'est quand même pas la nôtre. Sur l'ensemble de ces paramètres, les résultats indiquent que des enfants qui vivent en contexte de pauvreté ont un fonctionnement cognitif plus bas, notamment sur les apprentissages scolaires et les aptitudes verbales. Un autre élément qui est important, c'est que l'on se rend compte que la pauvreté persistante a beaucoup plus d'effets que la pauvreté transitoire. Autrement dit, quand il y a déjà des traces que l'on peut situer à ce niveau-là, on peut infléchir les choses pour peu que l'on souhaite et qu'on essaye d'y prendre attention. Alors, là, je vous ai présenté ce qu'on appelle des outcomes, hein, les résultats du côté de l'enfant. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment les choses s'articulent dans ce qu'on appelle un modèle multidimensionnel et éco-bio-social. C'est-à-dire qu'on a l'enfant qui est l'ontosystème, et puis on a le microsystème, c'est-à-dire les relations de l'enfant avec ses parents. Puis ensuite, on a le mésosystème, comment les parents s'articulent avec les structures d'accueil de la petite enfance, avec l'école, avec l'ASE, avec les PMI, etc. Mais aussi, comment ils s'articulent avec le macrosystème qui est représenté par le système économique, le système politique, les valeurs, les représentations au sein d'une culture. Donc c'est l'entrelacement de ces différents événements que je vais essayer de vous montrer pour voir pourquoi et comment on pourra ensuite infléchir ces résultats qui sont quand même relativement dramatiques quand on regarde le développement des jeunes enfants. Comment ça s'articule? Alors, la question de la santé. La question de la santé, c'est un processus qui nécessite une dynamique, qui nécessite une mobilité pour maintenir un bien-être physique, psychique et social. Il faut savoir que dans les populations défavorisées, cette préoccupation semble mineure. Elle semble mineure, elle semble bien loin de leurs préoccupations qui relèvent de manger, qui relèvent de dormir dans des conditions décentes, etc. Bien évidemment, il y a eu des évolutions, je ne le nie pas, nous le savons tous. Mais les inégalités sociales de santé perdurent. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des inégalités, des problèmes de sanitaires préoccupants. Les enfants ont de l'asthme, les enfants ont des symptomatologies ERL, ORL dues à l'humidité des logements, aux moisissures, au chauffage insuffisant. Ils sont atteints de saturnisme. 80 000 enfants, plus de 80 000 enfants atteints de saturnisme, d'après le défenseur des enfants. Une hygiène défaillante et des troubles de la vision non corrigés, des problèmes bucco-dentaires, des atteintes dermatologiques de toute nature. Pourquoi j'insiste là-dessus? Comment voulez-vous qu'un enfant qui se gratte parce qu'il a un eczéma, comment voulez-vous qu'un enfant qui n'a pas une correction adaptée au niveau de la vision puisse travailler correctement? C'est basique, comme vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à la propreté, ce sont des choses basiques. Les enfants peuvent avoir une paire de lunettes à l'âge de 7 ans et avoir la même paire de lunettes à l'âge adulte. Je fais un arrêt sur image sur l'obésité parce que c'est un problème extrêmement important puisque le risque d'obésité touche les enfants en situation de précarité de 3 à 4 fois plus que dans une population générale. On est passé d'un corps trop vide à un corps trop plein. J'insiste sur le fait que c'est une obésité qui est précoce, qui est morbide, qui transforme le corps, qui empêche ses enfants de se montrer, qui empêche ses enfants de prendre les transports en commun, qui les stigmatise d'autant plus parce que le regard de l'autre est extrêmement important. Ce corps trop plein, ce sont des situations humiliantes pour les enfants. Ils sont obèses, ils sont mal lavés, ils sont mal fringués, ils puent. Et ils ne se reconnaissent pas dans le regard de l'autre du bien fringué, du bien lavé, et qu'il sent bon et qu'il a les Nike aux pieds. À ces problèmes de santé, on rajoute des urgences pédiatriques extrêmement en augmentation à l'heure actuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces enfants vont très souvent dans les urgences pédiatriques qui ne sont pas là, bien évidemment, pour adopter un suivi pour ces populations. Il n'y a pas de continuité dans l'action. C'est donc un parcours détourné qu'utilisent les familles en situation de pauvreté pour faire soigner leurs enfants. À partir de là, il ne peut pas y avoir de suivi et donc il ne peut pas y avoir de prévention tout au long de leur développement. Alors, contextualisons encore. L'environnement familial est aussi en souffrance et l'on sait très bien, et Bernard Lahir, que vous connaissez bien ici, nous le dit bien, la famille est elle-même un vecteur de transmission des inégalités, notamment à travers la culture de l'écrit. Qu'est-ce qui se passe pour ces parents qui sont dans une telle situation? Au niveau parental, chez les mères qui vivent dans des conditions défavorisées, et quand on les compare aux plus aisés, on a un niveau de souffrance beaucoup plus important. et un nombre de dépressions maternelles élevé, en particulier chez les mères de jeunes enfants. Quand on dit dépression maternelle, cela signifie un dysfonctionnement dans la relation mère-enfant. Qui dit dysfonctionnement dans la relation mère-enfant, dit enfant insécurisé, désorganisé. Autrement dit, on n'a pas un enfant insécure tout seul, on a un enfant insécure parce qu'il est dans une relation difficile avec sa maman, qui est elle-même dans une situation difficile due aux conditions de précarité, de pauvreté dans lesquelles elle vit. Qu'est-ce que l'on voit chez les pères? On voit un sentiment de tristesse, on voit un sentiment d'anxiété, on voit une dévalorisation du rôle du père. Nous ne sommes plus du tout dans le schéma normatif des papas poules qui accompagnent leurs enfants à l'école. Nous sommes dans des populations pour qui la question du revenu est centrale, pour qui la question de donner à manger à ses enfants est centrale, pour qui les habiller est central. Quand nous avons une dévalorisation de l'identité professionnelle des pères, nous avons une dévalorisation de leur identité paternelle. Or ça, on l'oublie encore trop souvent, parce que nous avons des schémas, et je suis partie prenante de ces schémas, c'est-à-dire après avoir promu l'implication paternelle, et tant mieux, hein, on en est revenu à des schémas normés, qui fait que si un papa n'amène pas son enfant à l'école, ou s'il ne le change pas, ou s'il ne l'amène pas chez le médecin, comme des papas tout venant de la population favorisée, nous allons avoir tendance à stigmatiser ce père comme ayant, entre guillemets, un mauvais rôle paternel. Le père et la mère, ce ne sont pas des individus isolés au sein de la famille. Ils forment aussi un couple parental et ils forment un couple conjugal. Le système parental est aussi affecté. Les parents adoptent des pratiques éducatives autour de la discipline et du contrôle et manifestent moins d'encouragement pour favoriser l'autonomie des jeunes enfants. Sur le registre des interactions parents-enfants, on note moins d'engagement positif, moins de sensibilité parentale, c'est-à-dire moins de réponses adéquates aux besoins de l'enfant, moins de disponibilité. Certains parents peuvent nous dire « on est tellement épuisé quand on rentre, on ne supporte plus nos gosses ». Ce que l'on sait au niveau de la recherche, c'est que les mères aisées parlent ou répondent deux fois ou plus à leurs enfants que les mères pauvres. Les mères plus aisées ont davantage tendance à montrer de l'affection au plan verbal, sous forme d'encouragement, sous forme physique, sous forme de caresses, sous forme de sourire envers leurs enfants. Il est bien évident que là aussi, quand on est dans des situations stressantes, parce qu'on n'a pas assez à manger, parce que le logement est exigu, je vais y revenir, bien évidemment, on est moins dans une possibilité d'interagir avec son enfant. Et quand tout à l'heure, je parlais d'aptitudes verbales qui étaient moins satisfaisantes dans les familles défavorisées, bien évidemment, on peut le mettre aussi en lien avec des relations au niveau langagère beaucoup plus pauvres que dans des familles favorisées. Qu'est-ce qui se passe au niveau du couple conjugal? On a deux cas de figure. Soit on a des mamans qui soutiennent le père en disant « ce n'est pas de ta faute si nous sommes dans une telle situation ». Par contre, si on a un mépris très important du côté paternel par rapport à la... de la conjointe par rapport au père, on a à ce moment-là un déplacement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un conflit qui va se manifester au niveau conjugal, on va avoir un déplacement du côté de l'enfant. Et donc les pratiques punitives dont je parlais tout à l'heure seraient dues aussi à cette disharmonie conjugale, avec un déplacement du conflit conjugal vers l'enfant. Ce qui pourrait expliquer en partie l'augmentation de ces comportements punitifs. J'ai encore quelques minutes. Oui, merci. Alors, un mot aussi sur cette question de l'habitat, parce que c'est beaucoup trop important pour passer rapidement. La santé, l'éducation sont bien évidemment les préalables au bien-être social, mais aussi à la liberté, comme le souligne Esther Duflo. Il faut ajouter à présent la question de l'habitat pour que santé et éducation puissent s'épanouir. Les normes liées au logement évoluent. On est passé des SDF, des sans-domicile fixe, à un indice qui est maintenant un indice de l'INSEE et qui souligne le mal-logement. Mal-logement, ça veut dire nuisance, insalubrité, exiguïté, insécurité, dangerosité, voire mort. Cette nouvelle donne, elle est en rapport avec un révélateur de nouvelles définitions de la précarité dans notre pays. Bref, c'est un marqueur de la misère. Quand on a moins de 9 mètres carrés, quand on a ce dont je parlais tout à l'heure, la question des moisissures, etc., etc., comment voulez-vous que les jeunes enfants puissent se développer de façon satisfaisante? Comment voulez-vous que dans un logement où tout le monde vit, je prends par exemple une image que vous avez tous en tête, une chambre d'hôtel où on est 4-5, où les parents ne peuvent pas avoir d'intimité, où les enfants ne peuvent pas non plus avoir d'intimité, comment voulez-vous que ce mal-logement n'entraîne pas des difficultés affectives et des difficultés cognitives telles que nous les avons évoquées précédemment? Je voudrais aussi rajouter un point qui me semble aussi important. Ce mal-logement, il entraîne aussi cette exiguïté de l'espace vital pour les enfants. Ça entraîne une contraction de l'espace intime et ça empêche le jeune enfant de penser librement, le penser. Voilà, tout simplement parce qu'on ne peut pas le faire quand on est dans de telles conditions de vie. Marie-Rose Moreau, elle parle aussi de cette promiscuité et elle dit « Elle ne permet pas de se refermer sur soi, elle ne permet pas de penser, elle ne permet pas de rêver, elle ne permet pas d'imaginer. » Et tous ces éléments sont absolument nécessaires à la construction psychique des jeunes enfants et des adolescents. On sait aussi que les parents pauvres sont contraints, de par la faiblesse de leurs revenus, à un habitat. Ils n'ont pas de choix de cet habitat. Ils n'ont pas de choix dans le quartier qui les environne. Et puis aussi un élément à souligner, même s'il y a des ludothèques, même s'il y a des bibliothèques, même s'il y a des espaces de loisirs, les parents qui vivent dans ces conditions-là se retrouvent face à ce qu'on appelle une frontière invisible. C'est-à-dire une frontière au-delà de laquelle ils n'iront pas parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe derrière. Et donc on se retrouve effectivement non seulement dans une ghettoisation de l'espace, mais aussi une ghettoisation de tout ce que les familles peuvent et arrivent à faire pour ne pas se retrouver dans un milieu qu'elles ne connaissent pas. Je prends un exemple très, très récent où je participais avec des collègues de théâtre qui ont fait une action extrêmement importante dans le quartier du Mirail, qui est un quartier très défavorisé dans notre à Toulouse, et on a fait une présentation à Toulouse, à Ombre Blanche, qui est une librairie qui se trouve au centre même de Toulouse. Et donc les acteurs qui ont participé à cette pièce de théâtre sont venus à la librairie Ombre Blanche. Ces personnes n'avaient jamais pris le métro. Ces personnes n'étaient jamais revenues dans une librairie. Et c'était extrêmement touchant de voir à quel point ils étaient arrivés à dépasser cette peur de l'inconnu qui était effectivement venir dans une librairie, prendre le métro et se retrouver avec une population, la population tout venant. Bref, ces populations se retrouvent dans ce que Catherine Szymanowski, elle parle de territorialité de repli. Et là aussi, je pense que c'est important pour vous de comprendre ce que ça signifie. Alors, je ne vais pas abuser de mon temps pour laisser la parole à d'autres personnes. Je voudrais simplement dire aussi que les structures d'accueil se retrouvent aussi dans cette difficulté-là. Parce qu'elles ne peuvent... Alors, ça s'assouplit aussi de ce côté. On essaye de passer de 15% à 25% d'accueil des familles qui se retrouvent dans des situations de pauvreté. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que les structures d'accueil, de par les recherches que nous avons faites, peuvent servir de transition, peuvent servir de médiation pour que les enfants se développent au mieux. Quand les enfants arrivent plus calmes, plus détendus chez eux, quand les parents ont pu trouver un espace de liberté en laissant les enfants dans les structures d'accueil de la petite enfance, ils se retrouvent avec plus de disponibilité eux-mêmes vis-à-vis de l'enfant. L'enfant se retrouve plus serein parce qu'il a été dans un espace aussi de construction psychique. Et au bout du compte, le soir, quand tout le monde se retrouve, les relations sont plus satisfaisantes. Et petit à petit, on se retrouve avec des enfants qui, au départ, étaient désorganisés, se retrouvent des enfants sécures. Donc là aussi, il y a quelque chose qui se passe, qui est important dans les structures d'accueil. Et je ne doute pas non plus que dans l'accueil des enfants, des jeunes enfants en dessous de 3 ans, vous vous retrouviez dans des situations d'être vous-même, ce que Cyril Nick et d'autres appellent un tuteur de résilience, et a joué un rôle extrêmement important pour que le développement de l'enfant soit ensuite satisfaisant. Je ne vais pas revenir sur les données de l'école, vous les connaissez sans doute mieux que moi. Je veux simplement souligner qu'effectivement la famille est un élément déterminant dans cette question du capital scolaire, dans ce capital culturel qui est transmis. Vous le savez autant que moi, dans l'IB, dans le monde, il y a peu de temps, les données étaient extrêmement précises. Vous savez aussi que c'était déjà dit dans le rapport Forestier-Mons en 2012. Bref, nous nous retrouvons avec des inégalités qui se creusent encore dans cette école et qui mettent en danger le projet républicain. Raison pour laquelle j'insiste vraiment pour dire que la prime enfance, c'est un lieu extrêmement important, que nous y sommes, c'est vrai, attentifs, mais de mon point de vue, pas encore suffisamment attentif. Et j'insiste vraiment parce que, quelque part, j'enrage. J'enrage parce que nous sommes en 2014. L'ouvrage et la recherche que nous avons faite, elle date de 2004. Ça fait 10 ans. En 10 ans, il n'y a pas eu d'autres recherches qui ont été faites sur la prime enfance. Nous, on avait été soutenus par la CNAF à l'époque et par le Conseil régional pour mener notre recherche. Depuis, je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres recherches qui ont été faites dans la petite enfance. J'ai l'impression de répéter un petit peu, de rabâcher les choses. Bien sûr, des choses sont faites. L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme fait des actions éducatives familiales. Et je crois que c'est un élément vraiment fondamental de mettre les familles au centre de ce dispositif. Mais je crois que les uns et les autres, acteurs, professionnels, chercheurs, nous devons rester attentifs et être au plus près de ces familles qui ont un réel besoin d'identité, qui ont besoin que l'on comprenne et que l'on identifie leurs compétences. Nous avons besoin aussi de sortir de nos propres valeurs normatives que nous leur collons très souvent, que l'on colle à ces familles-là. Chacune a ses compétences, il faut les identifier. Chacune a ses habiletés, il faut les identifier. Et bien évidemment, faire avec elles. Je crois que ça, c'est important aussi à dire. Et je terminerai sur une phrase de Robert Castel qui nous a quittés il y a peu de temps et qui a travaillé vraiment de façon magnifique sur cette question-là. Et qui nous dit, les individus ne tiennent pas debout tout seuls, il leur faut des supports, des protections qui assurent leur lendemain et ceux de leurs proches, évitant qu'ils ne soient des individus par défaut. Voilà, je vais m'en arrêter là, je vous remercie de votre attention et je suis prête bien évidemment à répondre aux questions que vous posez, tout en sachant, comme le dit Edgar Morin, que nous n'avons pas toutes les réponses.